Bonsoir à toutes et à tous. C'était il y a un an, la France sidérée entrée en confinement. Souvenez-vous, nous avons d'abord commencé par acheter frénétiquement des pâtes, du riz, thé, café, huile, papier toilette, avant de nous terrer deux longs mois, 55 jours exactement, sans sortir, dans des logements parfois trop petits, la maison devant alors faire office de bureau, école, gymnase, salle de cinéma, mais aussi restaurant à midi et le soir. Alors qu'est-ce que cette période hors norme nous a appris d'abord sur nous-mêmes, mais aussi sur la société, sur les politiques, notre système de santé, notre rapport à la culture. Et vous entendrez dans cette émission deux témoignages de l'humoriste Élie Semoun et du violoniste Renaud Capuçon. C'est un confinement qu'on croyait à l'époque, qu'on pensait être une parenthèse, hein, en attendant le fameux retour des jours heureux. Sauf que nous sommes un an plus tard et l'épidémie est toujours là, bel et bien là, au point que l'on envisage un nouveau confinement, oui, un nouveau confinement de toute l'île de France. On parle là de 12 millions d'habitants, et ce, dès la semaine prochaine. Bref, comme une histoire sans fin, c'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Confinement, l'an 1 ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes éditorialiste, chroniqueuse dans la matinale de France Info, spécialiste des questions économiques et sociales. Sophie Orange, vous êtes journaliste à RTL et vous suivez cette crise du Covid depuis ses débuts, depuis un an donc. En visioconférence, on retrouve Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Je rappelle votre dernier édito sur Inter, l'Europe doit vacciner plus vite. Et enfin, Jean Viard. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF CNRS. Et je rappelle votre livre, hein, La page blanche, aux éditions de l'Aube. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. On va commencer par une question presque un peu personnelle, Fanny Guinochet. Est-ce que vous vous souvenez quand même du moment, de ce que vous avez ressenti quand Emmanuel Macron s'adresse à 20h à la Nation et dit quand même des phrases qui paraissent sidérantes, même un an plus tard, on en a retrouvé une, « se promener ». Retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible.
Eh bien, vous l'avez dit, la sidération. Je crois qu'on était... Surtout que je me souviens très bien que quelques jours et quelques semaines avant, nous avions rigolé, je ne dirais pas où, mais entre quelques collègues, sur ces Chinois qui avaient confiné. Et on avait dit, fou, ça risque pas d'arriver en France, parce que franchement, le jour, on voit bien que c'est une dictature, mais nous, jamais ils arriveront à nous confiner. Le français est bien trop gaulois pour suivre ce genre de discipline. Eh bien, boum. Et alors, c'est vrai que c'était... on n'en revenait pas. Et puis, de la crainte aussi, quand même. Je me souviens que les premiers temps où nous allions faire nos courses, on sortait, on désinfectait tout, on laissait les courses sur le balcon. On avait peur. Donc, on était dans la peur. C'est vraiment ce souvenir-là pour les premiers moments. Et puis, alors, ensuite, là, on voit un an après qu'on nous reparle d'une possibilité d'un reconfinement pour beaucoup de Français. Et je m'inclus dedans. C'est une des pires périodes de ma vie. Parce que vous l'avez dit, franchement, en tout cas, je pense pour un certain nombre de femmes, c'était les cours Zoom, les réunions Zoom, parfois en même temps que les enfants à gérer, une promiscuité à laquelle on n'était pas habitué, beaucoup d'angoisse professionnelle, une situation qui nous échappait, tous nos logiciels qui explosaient en vol. Hein, donc vraiment une situation qu'on n'aurait pas imaginé vivre.
Dominique, un souvenir, vous, suite à cette annonce d'Emmanuel Macron ?
Mais moi, ce qui m'a frappé le soir même, c'est la déclaration et l'utilisation du mot « guerre ». Nous sommes en guerre, l'ennemi est insaisissable, invisible.
Et il a dit six fois dans le discours.
Il a dit six fois, et moi, j'avoue que j'ai été très choqué par l'utilisation du mot « guerre ». Je me disais, mais attendez, une guerre, ce n'est pas ça. Une guerre, c'est 1914-18, c'est 40-45, ça n'a rien à voir. Et j'ai trouvé qu'en gros, il en faisait trop ce jour-là avec l'utilisation du mot « guerre ». Et on s'est rendu compte, évidemment, avec la durée, que c'était un terme qui était assez justifié. Est-ce qu'il y avait la sidération ? Alors, j'avais un peu moins de sidération parce que j'avais été sidéré un mois plus tôt par deux anecdotes, si vous permettez que je la raconte. C'est Agnès Buzyn était venue un matin, elle était encore ministre de la Santé à France Inter, et à l'antenne, elle avait expliqué que la France était bien préparée, que ce serait compliqué, mais enfin, la France allait y arriver. Et hors antenne, en sortant du studio, elle nous avait confié à l'éditorialiste politique et à moi, « Je n'endors plus la nuit, j'en pleure la nuit, ça va être épouvantable. Et deux jours plus tard, elle partait pour la campagne à Paris. Évidemment, c'est un petit peu compliqué. Et la deuxième anecdote, c'était trois jours après, le hasard de la vie professionnelle, une rencontre avec le directeur de cabinet d'Édouard Philippe qui avait évoqué devant nous, avec quelques journalistes, une hypothèse incroyable à l'époque, qui était « Nous regardons s'il est possible de mettre l'armée autour de certaines villes pour les isoler. » Et ce dont je me souviens, c'est que il nous avait dit, donc Benoît Ribadeau-Dumas, en 1956, il y avait eu une épidémie de variole dans la ville de Vannes, en Bretagne, et l'armée avait été utilisée. Et je crois que la sidération, elle est venue à ce moment-là, trois semaines et demie, avant l'annonce par le président de la République. Nous étions sortis de son bureau, je peux vous le dire, estomaqués. Et ce n'était même pas une tristesse infinie, c'était estomaqué, nous n'y croyons pas. L'armée, la variole, le confinement, c'était des mots absolument incroyables.
Sophie Orange, alors vous, comme, est-ce qu'un souvenir ? D'abord, très vite, à la radio, il a fallu improviser des journalistes spécial Covid. Vous êtes devenue l'experte Covid d'RTL, on peut le dire.
Alors, c'est venu progressivement parce que quand on a eu le premier mort en France, puis les premiers malades hospitalisés, Franck Riester, le Premier ministre, qui est devenu positif au Covid, voilà, petit à petit, on est rentré dans l'histoire. Et moi, mon rôle, très très vite, a été de répondre aux questions des auditeurs tous les matins. Donc au départ, ça devait être pour 15 jours et ça a duré jusqu'au 6 février. Donc j'ai 250 pages Word de questions. Et en fait, ça me permettait de rentrer dans la vie des Français, de voir les questions que se posaient nos auditeurs. Et c'était très concret. Est-ce que je peux acheter des fraises au marché ? Est-ce que je dois les rincer à la Javel ? Est-ce que j'ai le droit de les manger ? Ou est-ce qu'elles ne vont pas être contaminées par les mains de celui qui les a accueillies ? Est-ce que j'ai le droit d'embrasser mon enfant le soir ? Ou est-ce que je n'ai pas le droit de l'embrasser ? On ne savait rien sur cette épidémie. Et finalement, donc moi, on me posait des questions. Donc, je passais mes journées à interroger des experts qui essayaient de me répondre pour que je puisse moi-même, à mon tour, répondre aux auditeurs. Et puis, moi, j'ai des souvenirs de cette ville qui s'est arrêtée de vivre. On entendait les oiseaux comme jamais. Quand on sortait dehors, quand on se croisait, en fait, on tournait la tête parce qu'on avait peur que celui qu'on croise dans la rue nous donne le virus. Ouais. Moi, j'ai ces souvenirs-là, des visages qui se tournent. Et on sortait une fois par semaine, on rinçait les sacs des courses, on les laissait dehors. Enfin, on avait beaucoup d'inconnus, beaucoup de peur pour ses proches aussi.
On regardait avec des yeux noirs celui qui toussait dans la rue.
Mais c'était ça. Et puis effectivement, petit à petit, on s'est mis à faire des zooms avec ses parents, des zooms avec ses amis. Enfin, on s'habitue à beaucoup de choses. On nous aurait dit ça au mois de janvier, on aurait rigolé. D'abord, on s'est moqué des Italiens. Ils ne savent pas faire, les Italiens. Après, les Chinois. Non, mais les Chinois, de toute façon, ils sont habitués à la dictature. Voilà, c'est ce que disait Fanny. Et finalement, on a réussi à s'adapter. Il y a eu beaucoup de déboires, quand même. Beaucoup de dégâts, aussi, dans des familles. Violence conjugale, dépression, alcool. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, un an en arrière, ça paraît tellement loin et on n'a tellement pas envie de le revivre.
Jean Viard, un souvenir. Même alors, si Fanny Guinochet le disait à l'instant, c'est dans les petits appartements parisiens, par moment, bah, on est un petit peu les uns sur les autres. Alors, ce n'est pas pour révéler un secret de famille, mais on sait que vous habitez un joli mât provençal. Est-ce que vous vous êtes senti un peu plus privilégié en disant « j'aurai toujours mon jardin » ?
Ce n'est pas un secret de famille. J'habite à la campagne depuis 68. Je suis un ancien babacool et j'ai reconstruit une ruine avec une exploitation agricole autour. Donc, ce n'est pas un secret de famille du tout. Donc, j'habite là. Là, pour le coup, je suis un privilégié. Ça, les anciens 68ards qui sont restés à la campagne, c'est vrai que vous voyez, d'un côté, je vois la Sainte-Victoire et de l'autre côté, le Luberon. Et ce soir, il y a un couchant magnifique. Donc, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai que, si vous voulez, pour des gens comme moi qui avons vécu, qui vivons à la campagne, au fond, c'est d'abord la solitude, cette période. Parce que vous voyez, moi, je vais à Paris toutes les 15 jours, là, j'y suis allé une fois en un an. Et donc, au fond, je ne suis pas enfermé, il n'y a personne autour de chez moi, mais je suis seul. Et si vous voulez, c'est ce sentiment-là, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, parce qu'il y a les gens des villes, évidemment, mais je vous rappelle quand même que la majorité des Français ont un jardin, donc il faut toujours faire attention dans l'image qu'on a d'habiter en appartement, il y a 63% des gens qui ont une maison avec jardin. Donc c'est quand même aussi ça. La mienne est particulièrement grande, parce que je suis dans la colline, il n'y a personne autour. Mais si vous voulez, moi, les deux choses que j'ai retenues, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, il y a la barrière de l'âge, et c'est marrant parce qu'une fois j'en blaguais avec Cohn-Bendit, au fond, on nous a dit 70 ans, c'est l'âge dangereux. Et nous qui avons un peu plus de 70 ans, d'un coup, on a été vieux. Alors que moi, je ne me sentais pas vieux. Je suis actif, j'écris, je voyage, je travaille. Enfin, je veux dire, je n'avais pas changé de mode de vie depuis 20 ans. Et d'un coup, j'étais vieux. Et mes enfants n'osaient plus venir vers moi. Ils disaient, mais papy, t'es dangereux, on ne veut pas te donner la maladie. Et si vous voulez, ce sentiment que c'est plutôt les jeunes qui, d'ailleurs, nous ont mis à distance, c'était très difficile à vivre et se mettre d'être vieux. Et donc, moi, je rajouterais ces deux idées, la solitude et effectivement la vieillesse. Le déplacement de l'âge vieux, si vous voulez, je dirais les choses comme ça. Alors, avant, c'était 60 ans, maintenant, c'est 70 ans.
Alors, souvenez-vous, hein, c'était il y a un an. Pour la première fois, les Français découvraient les attestations de déplacement. les commerces essentiels et le télétravail. Retour sur cet événement inédit, Paul-Rémy Barjavel et Ilana Azinko.
Des rues et des places vides, comme à Strasbourg ou sur les berges du Rhône à Lyon. Les villes de France confinées sous un ciel ensoleillé. Paris méconnaissable, le début du premier confinement lancé par le président de la République dans une allocution très solennelle.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
C'est l'exode. Face à une situation inédite à la durée incertaine, les Parisiens se ruent vers les gares bondées. Partir à tout prix pour se mettre au vert.
On ne sait pas quand on revient, si on revient, dans un mois, deux mois, on ne sait pas.
40 mètres carrés pour deux, c'est la promiscuité, vraiment.
Promiscuité avec la petite, trop dur de rester longtemps à l'intérieur, confiné.
Quitter les appartements exigus, les habitants des grandes villes prennent la clé des champs.
J'ai pris mes affaires pour travailler de chez mes parents et les plantes pour pas qu'elles meurent.
La France bascule dans l'inconnu. Dans les hôpitaux à la limite de la rupture, les services de réanimation affrontent le tsunami du Covid-19. Et devant les supermarchés, les files de clients s'allongent. À l'intérieur, les rayons se vident, c'est la peur de manquer.
Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas ?
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
3-4 mois, oui. Le congélateur, il est plein, tout est plein.
Aller faire ses courses, promener son animal de compagnie ou faire de l'exercice physique. Des activités qui nécessitent à présent une attestation de sortie.
Donc tous les jours, en fonction de ce que je vais faire, il faut que je refasse le papier.
C'est ça.
La police veille, contrôle, et les consignes ont parfois du mal à passer.
Restez chez vous au maximum, on parle de confinement.
Le but, c'est de rester chez moi. Chez moi au maximum, j'ai besoin de m'aérer un peu.
Mais ouais, ben alors,
en bas de chez vous.
Parce que je suis tout seul chez moi, j'ai un studio et j'ai besoin de m'aérer.
En bas de chez vous, ça sera très bien, d'accord ?
Les villes, justement, respirent. Moins de pollution sonore dans les communes et plus de chants d'oiseaux. La nature se déconfine. Des animaux font irruption dans les rues et explorent de nouvelles zones. Le premier confinement, un moment suspendu. Sur les balcons, certains bronzent. D'autres partagent leurs talents. À l'intérieur, il faut s'occuper comme on peut, jusqu'à faire un marathon sur sa terrasse.
Ah, plus que 8 km. Je pense que j'ai fait le plus dur. Hein. Tandis que la fin, c'est le mental qui prend le dessus.
Chaque jour, comme un rituel, musiques et applaudissements tombent des fenêtres pour remercier le personnel soignant et les nouveaux héros du premier confinement. Car certains sont bien obligés d'aller travailler.
Ce qui m'a marqué, c'était un couple, ils avaient un petit gamin d'un certain âge. Puis le gamin, il m'a tendu un dessin. Alors il m'a dessiné une dame, moi, sur une chaise. Il m'a tendu le dessin, il m'a dit « Oh, merci, vous êtes courageuse ». Alors ça m'a vraiment touchée.
Caissière, éboueur, chauffeur routier, le pays repose sur certains secteurs d'activité qui l'empêchent d'être totalement à l'arrêt. Des nouveaux héros et des mouvements de solidarité qui se multiplient pour aider les personnes isolées. Comme ici à Lille, où une habitante d'un immeuble fait les courses pour ses voisins confinés.
Voilà, pharmacie, c'est fait.
En général, je fais un plein le vendredi, beaucoup de courses, et après le mercredi souvent. J'ai deux jours dans la semaine où j'ai vraiment des grosses courses à faire pour tout le monde et je fais le tour complet.
Du 17 mars au 11 mai 2020, la vie des Français bouleversée. Pendant près de deux mois, le pays, c'est comme figé.
Fanny Guinochet, ça vous fait quoi de revoir toutes ces images très étonnantes quand même.
Et effectivement, ça semble très très loin. Et à un moment où on évoque la question d'un reconfinement, en tout cas d'Île-de-France, pas sûr que ce soit vécu de la même façon. Là, on voit ces mouvements de solidarité. Il y avait une telle peur que tout le monde l'a accepté finalement, ce confinement. Là, un an après, je ne suis pas sûre que l'acceptation elle soit la même, parce qu'il y a des souvenirs. Et puis qu'on voit bien, il y a des césures qui se sont faites entre ceux qui ont continué à travailler et ceux qui étaient à la maison en télétravail. Aujourd'hui, la question de la reconnaissance, est-ce qu'on revivrait les choses de la même façon ? Pas sûr. D'ailleurs, Jean Castex, lundi, anime une conférence sociale, un sommet social, où il est question de remercier les travailleurs de la deuxième ligne, la première ligne étant le personnel soignant, et ces travailleurs de la deuxième ligne, c'est ce qu'on a vu dans votre reportage, c'est-à-dire les éboueurs, les agents de caisse, les agents de propreté, sans qui le pays n'aurait pas tourné. Ça aussi, ça a vraiment marqué entre le télétravail, tout le monde trouvait ça, enfin beaucoup de gens trouvaient ça très, très fun au début, c'est sympa, on perd moins de temps dans les transports, on peut continuer à travailler un peu différemment, sauf qu'un an après, il y a beaucoup de salariés qui ont quand même envie de revenir un peu sur site, de trouver un mix un peu différent. On a vu les limites, se faire virer via une visioconférence, c'est pas très drôle. Donc ça pose quand même, ça a soulevé beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est pas sûr qu'on vivrait le confinement de la même façon.
On l'accepterait. Jean Viard, sur cette notion d'acceptabilité d'un nouveau confinement, est-ce que, d'ailleurs, probablement que le gouvernement s'en inquiète. Je ne sais pas si vous avez entendu, sur France Inter, il y avait cet auteur, Maxime Liédo, qui a sorti Génération fracassée. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que vous étiez 68 ans. Il interpellait justement cette génération 68 en disant, c'est curieux, cette génération 68 qui prônait, il est interdit d'interdire, aujourd'hui, eh bien, elle nous interdit la liberté élémentaire de sortir de chez nous, elle veut nous confiner chez nous. Au fond, elle qui était libertaire, elle est devenue liberticide.
Vous savez, il y a des gens qui aiment bien exclure. Alors, tantôt, ils veulent exclure les immigrés. Maintenant, la mode, c'est d'exclure les vieux. Je veux dire, c'est la même pensée. C'est-à-dire, à un moment, on veut casser la société pour essayer de... Moi, je ne suis pas dans cette pensée-là. Alors, après, chaque génération amène sa pierre. Et donc, effectivement, la génération de 68, la vie s'est allongée, les femmes ont changé de position, même si on peut encore améliorer les choses, etc. L'écologie est devenue une question centrale. Donc, vous voyez, je pense que chacun construit une époque et qu'on ne peut pas dire... je suis la première génération, il n'y a pas eu la guerre, par exemple. Vous voyez, mon père, il a fait la guerre, mon grand-père, il a fait la guerre, mes deux grands-pères, mon frère a failli faire l'Algérie, enfin, à 2-3 ans près. Donc, si vous voulez, je suis la première génération, on a permis qu'il y ait la paix en France, par exemple. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ces discours qui visent à casser la société, à la découper par genre, par couleur, par origine, par âge, etc., parce que c'est extrêmement dangereux. On est tous énervés, on ne sait pas où on va, et donc, on a plutôt besoin d'un commun, si vous pouvez me permettre, que d'un éclatement.
Eh bien voilà, c'est dit, une réponse argumentée. Sophie Orange, question téléspectateur. Malgré les masques, les tests et les vaccins, sommes-nous en train de revenir à la case mars 2020 ? Question de Gérard dans les Bouches-du-Rhône, Fanny Guinochet en parlait à l'instant. Elle est vraiment sur la table, là, cette idée ? C'est dans les tuyaux, cette idée d'un reconfinement strict en Île-de-France ? Donc on parle de 12... D'ailleurs, comment pourrait-on délimiter ces 12 millions d'habitants qui n'auraient qu'une seule envie, c'est de fuir cet espace, ces départements ?
Alors, on n'est pas à la case départ du mois de mars 2020, d'abord parce qu'effectivement, on connaît quand même beaucoup mieux ces fameux gestes barrières, les masques sont là. Néanmoins, la région Île-de-France ne pourra pas être confinée à la découpe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un département, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, par exemple, où les hôpitaux sont vraiment très, très pleins, et le reste de la région Île-de-France qui continue à vivre normalement, soit la région Île-de-France est confinée en entier, soit elle n'est pas confinée. Après, les deux hypothèses, c'est est-ce qu'on confine le week-end, comme ça se passe déjà
Dunkerque,
par exemple, et dans les Alpes-Maritimes, ou est-ce qu'on confine strictement toute la semaine ? Et la dernière question, c'est est-ce qu'on ferme les écoles ? Les écoles seront fermées en dernière extrémité, donc ce ne sera pas pour ce coup-ci. Après, le sujet n'est plus tabou du confinement. Jusqu'à maintenant, quand on interrogeait les ministres, les cabinets des ministres, c'était on est sur un fil, chaque jour qu'on ne ferme pas est un jour gagné. Là, clairement, on a senti que le sujet n'est plus tabou. Et quand le sujet n'est plus tabou, ça veut dire que la pièce a basculé sans doute du côté du confinement. Est-ce qu'il sera annoncé demain, lundi, mardi, mercredi ? C'est sans doute une question de jour. Mais si les chiffres... Ce qui pose problème dans les hôpitaux, si je peux me permettre un instant, c'est les réanimations. Ouais. Parce que paradoxalement, pour cette fois-ci, en fait, le nombre de cas et le nombre de cas à l'hôpital, la courbe est à peu près en plateau élevé.
La courbe en réanimation
a explosé. Donc c'est la réanimation qui pose problème. On expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi. Mais donc, si dans les 3-4 jours, le nombre de malades en réanimation se stabilise, peut-être qu'on gagnera quelques jours de vie sans confinement. Mais si, en revanche, ça se dégrade, ça sera difficile d'y échapper. Et ce n'est pas les transferts et la déprogrammation qui vont résoudre le problème.
Et Jean Viard, si on hésite autant à vouloir reconfiner, c'est parce qu'on a pu mesurer les dégâts de ce premier confinement. On a des chiffres maintenant avec le recul. Les notaires nous indiquent qu'en mai 2020, Le nombre de divorces par consentement mutuel a augmenté de 20%. On pensait qu'il y aurait une hausse de la natalité de 25%, me dit-on. On pensait qu'il y aurait une hausse de la natalité. On s'aperçoit qu'il y a eu une chute, au contraire, de la natalité. On a les chiffres, là, en janvier. Moins 13%.
Plus de dépression.
Plus de dépression également, effectivement, chez les jeunes, des 15-24 ans. Le nombre de dépressions a doublé. Finalement, se retrouver, on s'insupporte quand on est 24 heures sur 24, les uns sur les autres, c'est ça que ça veut dire ?
Mais je veux dire qu'on n'a pas prévu nos vies pour être en tête à tête tout le temps. Je veux dire, un couple, au début, c'est tous les jours, et puis après, on se croise, on se raconte des choses. Si on ne sort plus, on n'a plus rien à raconter. Les enfants, on les adore, mais les avoir tout le temps, c'est hyper compliqué. En plus, c'est vrai que c'est surtout les dames qui les ont eues. Bien souvent, effectivement, monsieur s'isolait pour travailler, etc. On a vu aussi des clivages hommes-femmes, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y a un énorme décalage entre la vie privée des couples et l'espace public. Dans l'espace public, ce n'est pas génial, mais alors dans la vie privée des couples, excusez-moi, en même temps, on a fait des choses, regardez comment on a réappris à faire la cuisine. Pour dire, vous voyez, moi j'ai toujours tendance à regarder ce qui se passe, mais la qualité culinaire des Français a explosé. La qualité, par exemple, des pratiques artistiques, on a augmenté les ventes de guitares de 20%. On a augmenté de 29% les budgets pour la maison. On a commandé 300 000 piscines. Donc, vous voyez, il y a une partie de la société qui s'est installée, j'allais dire, dans le confinement. Comment je me fais un espèce de blocos confortable pour si ça dure et si ça revient? Je pense qu'ils ont aussi acheté des ordinateurs, etc., voire des maisons de campagne. Et puis, il y a des dizaines de milliers de Français qui ont déménagé. C'est sur votre plateau que Jérôme Fourquet a estimé à 10% des Français en train de changer de vie. Alors, changer de vie, ça peut être divorcer, déménager, changer de boulot. Mais partout où vous allez, il y a des gens qui sont en train de s'installer. Alors, si vous voulez, moi, je dis, par rapport à la vague de 68, c'est beaucoup plus fort. Alors, il y a aussi l'autre partie, c'est-à-dire qu'il y a la pauvreté. Le travail noir a disparu, disons les choses simplement. C'est le black qui manque, y compris parce que les bars et les restaurants, entre le chiffre d'affaires déclaré et le black, ben évidemment, le pourboire, tout ça, on n'a pas su indemniser le black. Et le black, ben dans les milieux les plus fragiles, c'est souvent, en gros, ce qui permet de vivre. Et là, on la voit, cette pauvreté qui se développe, on l'estime à 1 million de gens. Donc, au fond, la société se casse un peu en deux. Ceux qui ont fait un blocage confortable, ceux qui déménagent, qui sont d'ailleurs allés habiter dans leur résidence secondaire ou dans leur famille, les 3 millions d'étudiants ne sont pas tous à Paris, beaucoup, enfin en France, dans les grandes villes, beaucoup sont retournés en famille, et puis ceux qui sont sur le bord, et je crois que ça va être compliqué après parce qu'il y a une dette qui s'est créée entre ces différents milieux et ces différents mouvements.
Fanny Guinochet, pour revenir sur cette vie de couple qui a parfois été compliquée hein, pendant le premier confinement, c'est le BCG qui indique, que, par exemple, c'est tout simple, que 38% des femmes, 11 points de plus que les hommes, n'avaient pas d'espace pour télétravailler. Et elles télétravaillaient en fait dans la cuisine. Le monsieur prenait le bureau et la femme était dans la cuisine, souvent d'ailleurs avec les enfants.
Écoutez, c'était Simone, je crois qu'on a tous cette phrase quand même en tête qui dit « à chaque crise, on risque de perdre des droits, nous les femmes ». Et sans faire un couplet féministe, on a vu que cette crise, effectivement, et des études sont très documentées, et l'INSEE a fait un gros travail sur la société un an après, les femmes sont plus exposées au chômage, c'est elles qui ont plus souvent lâché leur poste ou qui ont été, qu'on n'a pas réussi à assurer la maison et le travail à ce moment-là, donc elles sont plus exposées. Elles ont arrêté souvent les heures supplémentaires, etc., pour pouvoir s'occuper des enfants. Vous avez tout un tas d'indicateurs qui montrent que les femmes ont été ramenées au sein de la maison. Et effectivement, au sein des familles, et bien souvent, les rôles ancestraux se sont réimposés très vite. C'est-à-dire, je ne dis pas que les messieurs n'ont rien fait, ils ont participé, hein, attention, pour la plupart. Mais quand même, globalement, quand vous regardez, j'ai plus les heures de travail domestique en tête, mais c'est essentiellement les femmes qui ont géré toute cette partie domestique, qui souvent, elles déléguaient, en tout cas pour celles qui ont le plus de moyens, elles arrivaient à déléguer parce qu'il y avait des nounous, il y avait des assistantes maternelles, il y avait des femmes de ménage et des hommes de ménage qui pouvaient venir. Là, il n'y avait plus rien. Et elles ont beaucoup, beaucoup perdu. Et ça va rester. Ça, c'est là où c'est compliqué, c'est que effectivement, pour rattraper cette perte, en quelques mois, certains, je ne dirais pas avantages, mais en tout cas, droits, progression vers l'égalité, on avait mis des années, eh bien, en quelques mois, on les a perdus. Et surtout, ce qui est dérangeant, c'est qu'on va mettre des années à retrouver le même niveau. Encore plus si les confinements et il y a cette insécurité-là de savoir si on revient à des systèmes comme ça.
Voilà, Dominique Seux, on s'est rendu compte, beaucoup se sont rendus compte qu'ils vivaient dans des logements qui étaient trop petits, qui étaient trop optimisés, avec des chambres au fond qui étaient réduites à, et on avait besoin d'air. Est-ce que du coup, vous pensez que ce confinement va laisser des traces sur l'immobilier, émettant un coup d'arrêt à cette hausse qui dure depuis un quart de siècle maintenant des prix de l'immobilier dans les grandes agglomérations?
Alors, certains spécialistes ont commencé à noter en ce début d'année un ralentissement ou plutôt une légère baisse des prix d'immobilier à Paris. Il y a un argument qui peut aller dans ce sens-là, qui est vous allez avoir des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux dont les entreprises ne vont plus savoir que faire. C'est-à-dire que le télétravail ne va pas s'imposer à 100%, mais la plupart des entreprises vont négocier des accords qui sont à 2 ou 3 jours de télétravail. Et donc, dans ce cas-là, les entreprises vont passer en ce qu'on appelle en flex office, c'est-à-dire que vous n'avez plus un bureau attribué, vous utilisez un bureau quand vous arrivez dans l'entreprise et vous installez là où il y a de la place. Mais au total, on a besoin de moins de postes de travail et donc moins d'étages dans les immeubles et donc moins de mètres carrés. Et ces immeubles qui vont être libérés, peut-être, ils pourraient être convertis en logement. Et donc, ça entraînerait une baisse des prix d'immobilier. L'argument qui va quand même minimiser un tout petit peu ça, c'est que les réseaux immobiliers ont noté effectivement des départs des grandes villes, et notamment de la région parisienne, mais aussi de grandes métropoles, vers des villes ou des villes moyennes à 20, 30, 40 km des centres-villes. Mais personne ne signale un mouvement irrésistible quand on interroge vraiment les professionnels. Donc attention à ne pas transformer un mouvement un peu bobo en un mouvement général, pour une raison très simple. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand même, n'ont pas un travail qui peut être transformé en télétravail. Vous devez être sur place dans les services publics, vous devez être sur place dans la grande distribution, vous devez être sur place dans les usines automobiles ou autres. Donc attention à ce que, on parle beaucoup du télétravail, et on a raison, évidemment, c'est la révolution numérique était quelque chose de fascinant dans cette période-là. On imagine, ou plutôt on n'imagine pas, ce qui serait passé il y a 10 ans s'il n'y avait pas eu le numérique. Que serait-il passé pour l'économie et pour la vie en général? Mais attention à ne pas fantasmer ce changement et imaginer que ça va être une révolution totale.
Fanny Guinochet, on parlait tout à l'heure de la possibilité d'un nouveau confinement et des réticences à reconfiner, la population qui ne pourrait pas accepter. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu financier? Ça fait 1 an qu'on est sur le quoi qu'il en coûte. Et en fait, on est au bout financièrement maintenant de soutenir comme ça l'économie artificiellement. Il y a des gens qui sont payés par l'État depuis 1 an maintenant.
Vous avez dans certains secteurs, vous avez des gens qui ne sont pas retournés sur site depuis 1 an. Par exemple, parce qu'ils sont soit en télétravail, soit en chômage partiel. Par exemple, les aéroports de Paris, vous avez un certain nombre de salariés où ils n'ont quasiment pas remis les pieds sur leur site de travail. Ils sont en chômage partiel. Vous imaginez la difficulté que c'est, alors la difficulté psychologique, managériale. Et effectivement, il y a un enjeu financier. Et d'ailleurs, cette crise, qu'est-ce qu'elle nous a appris? C'était une première, mais la vie humaine était plus importante que la vie économique. On a accepté de mettre sous cloche, de mettre sous perfusion l'économie pour sauver des vies humaines. C'était ça aussi ce que nous apprend cette crise. 1 an après, on pensait que ça ne durerait pas. Donc le gouvernement a ouvert les vannes, il n'y avait plus question de déficit, de dette. Là, aujourd'hui, 1 an après, on fait effectivement les comptes et on se rend compte, Jean Viard parlait de la pauvreté, mais on voit aussi que le quoi qu'il en coûte, jusqu'à quand peut-il durer? Les entreprises se posent la question des mutations qu'elles vont devoir faire. Et puis, on a connu ce confinement, enfin le premier, à un moment où l'économie allait extrêmement bien. On parlait presque du plein emploi en France, il y avait des perspectives. Là, on se dit, c'était aussi chacun doit prendre son risque. Là, c'était le retour en force de l'État. Aujourd'hui, on voit bien que quand l'État va arrêter le quoi qu'il en coûte, ça va être extrêmement dur. Et là aussi, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas aidée alors que j'ai perdu énormément.
Dominique Seux, on va se retrouver avec un État surendetté, donc des dettes et des inégalités au sein de la société française. Pour corriger ou guérir ces deux maux, est-ce que l'impôt ne sera pas la solution qui s'imposera? On ne veut pas le dire, mais pour réduire les dettes et pour réduire les inégalités.
Alors, pour réduire les dettes, l'impôt finit toujours par s'imposer, mais c'est évidemment pas le moment pour l'instant, parce que il n'y aurait rien de plus paniquant pour l'ensemble des consommateurs, des épargnants, etc., de leur annoncer des hausses d'impôts. Pour l'instant, avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, l'endettement, la dépense keynésienne est tout à fait justifiée. quand il y a une crise, la puissance publique, les finances publiques sont là pour amortir et pour relancer. Quand les choses vont mieux, quand l'économie va mieux, eh bien, voilà, reconstitue les réserves. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que la France ne reconstitue jamais et qu'elle est toujours là pour dépenser. Mais n'allons pas dans ces polémiques-là. Est-ce que l'impôt s'imposera à un moment ou à un autre ? Probablement, il y aura, mais je ne pense pas avant 2 ou 3 ans. En tout cas, certainement pas avant la fin de ce quinquennat, pour des raisons politiques évidentes. Et au tout début du quinquennat suivant, ça me paraît peu probable. Est-ce qu'il y aura, pour corriger les inégalités, puisque vous posez la question, une envie, un désir d'impôt très, très élevé ? Ce n'est pas impossible. Je me souviens, c'était dès le mois de mars, un expert du social que vous recevez souvent, Raymond Soubi, avait dit « il y aura un retour de l'ISF ». Il avait dit ça. Est-ce que c'était prémonitoire ? Je ne sais pas. Le sujet politique va revenir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une attente de l'opinion dans l'immédiat pour des hausses d'impôts, y compris pour des hausses d'impôts pour corriger des inégalités. Ce dont tout le monde a envie, en fait, c'est un, de retrouver un peu la vie d'avant, et deux, de relancer la machine. Et on voit bien, pour finir ce que disait Fanny Guinochet, c'est qu'on voit bien l'arbitrage entre les vies épargnées et les vies gâchées a profondément changé depuis un an. En mars 2020, tout était fait pour épargner des vies. Confinement total. Au fur et à mesure que cette année s'est déroulée sous nos yeux, il y a eu à la fois des réflexions, des envies, du désir, de la colère, d'équilibrer entre l'économique et le sanitaire, et on connaît tous ces débats-là. Et aujourd'hui, il y a quand même le sentiment qu'il faut faire attention aux vies gâchées, notamment celles des trentenaires qui vivent chez eux tout seuls. Et on voit bien aujourd'hui que la société a l'air, et je ne porte pas de jugement de valeur, mais la société tout entière a l'air de tolérer, je mets entre guillemets, de tolérer 300 morts par jour, ce qui n'était pas le cas à l'automne.
C'est ce que j'allais dire. Des choses qu'on ne nomme pas tous les jours, il y a 300, 350, 250 morts par jour. Ça, c'est des choses auxquelles on s'est habitué. Ça paraît assez incroyable.
De façon naturelle, il y a 1700 morts par
jour.
Oui,
mais là, c'est une maladie qui crée chaque jour, depuis des mois et des mois, 250 morts par jour. Et puis, il y a aussi des boires cachés qu'on ne voit pas. Ce sont des personnes qui ne peuvent plus être opérées. La vie à l'hôpital a été complètement chamboulée. Et il y a forcément des pertes de chance chez des malades du cancer, chez qui le cancer sera dépisté trop tard. Des gens qui avaient des maladies cardiovasculaires, qui n'ont pas pu se faire soigner, qui sont morts d'un infarctus ou qui sont morts d'un AVC. Ce sont des morts qu'on ne pourra jamais comptabiliser comme des victimes du Covid. On ne connaîtra sans doute jamais leur nombre. Mais c'est sûr que c'est un prix à payer. Et si on reconfine, si on déprogramme de plus en plus à l'hôpital, il y aura de plus en plus de pertes de chance. Ce sont des personnes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais il y a sûrement des gens qui nous regardent et qui se disent « Moi, j'ai perdu mon oncle, mon mari, mon frère, ma fille, parce que l'hôpital a déprogrammé une opération, un soin. » Et ça, si on confine encore plus et si on déprogramme encore plus, eh bien, le bilan sera encore plus terrible.
Alors, en tous les cas, on parlait de vie gâchée. On a pu constater hier soir, lors de la cérémonie des Césars, combien le monde du spectacle était en souffrance. Juliette Vallon et Dominique Lemarchand ont recueilli le témoignage du violoniste Renaud Capuçon et de l'humoriste Élie Semoun, deux artistes qui ne font plus de scène et qui doivent se contenter d'exercer leur art sur les réseaux sociaux. On regarde.
Pendant les 56 jours du confinement, Renaud Capuçon s'est accroché à son violon, plus que jamais. Quelques minutes de concert quotidien postés sur les réseaux sociaux pour garder le contact avec son public et le moral surtout.
Moi, j'ai été dans un espèce d'état de sidération ou d'écrasement, comme ça, pendant, je me souviens, une après-midi, à cocher les concerts annulés. Ça tombait, ça s'annulait par dizaines. Pour être très franc, c'est une période extrêmement lourde, extrêmement difficile, où beaucoup, beaucoup de mes collègues sont rentrés en dépression. Certains ne peuvent pas payer leur loyer. Certains ont perdu le goût de la scène. Certains sont maintenant tétanisés à l'idée de reprendre la scène, parce que on perd une sorte de muscle aussi. Quand on joue, on voyage, on est sur scène, on a une sorte de, sinon d'habitude, mais de c'est un peu comme un muscle. Finalement, quand on ne l'utilise plus du tout, il faut rééduquer ce muscle.
Rejouer à tout prix, même dans un supermarché. En attendant la réouverture des salles de concert, le violoniste jongle avec l'attente, l'espoir et l'impatience.
Si vous enlevez à un artiste la capacité de rêver, la capacité de se projeter, la capacité d'imaginer des rencontres, d'imaginer comment il va concevoir une pièce, comment il va concevoir un concert, bah vous lui enlevez sa partie créatrice. Et c'est ce qui est l'essence même de sa vie de musicien. Donc oui, beaucoup de frustration. Et finalement, si on pense à ce qui est positif, énormément de choses qui vont naître de cette situation. Cette espèce de frustration de non-possibilité de nous exprimer, moi je l'ai constaté à chaque fois que j'ai eu la chance de pouvoir rejouer dans les moments où il y a eu des concerts, ou en Espagne avec récemment des concerts publics, l'inspiration elle est décuplée. J'ai jamais été autant inspiré de ma vie. Cette espèce de réduction totale et de condensation des choses et de disparition a fait que vous retrouvez une saveur que vous aviez non pas perdue, mais vous avez oublié. C'est comme si vous aimez le chocolat et que vous arrêtez d'en manger pendant 3 mois. Voilà, la première fois que vous allez en remanger, ça va être absolument incroyable.
À lui aussi, les applaudissements manquent. Elise Moon, privée de spectacle, privée de son père également, malade et confinée dans son EHPAD.
Moi aussi, papa.
C'est un peu de loin.
Ouais, c'est un peu de loin.
C'est Ellie.
Voilà,
Ellie.
Mais assieds-toi, papa, assieds-toi.
Il a encore un peu de temps pour parler avec
vous. J'ai du temps, hein.
Il est mort en septembre. Il est resté 8 mois ou 9 mois dans cet EHPAD. Il n'a pas vécu très longtemps dans cet EHPAD. Et malheureusement, dans ces 8 ou 9 mois, eh ben, il y avait les 2 mois où on n'a pas pu aller le voir. Et honnêtement, je l'ai souvent dit, tant pis si je me répète, mais ça a accéléré sa chute. En fait, il était déjà sur une pente savonneuse à cause de sa maladie d'Alzheimer. Ça a tout accéléré. Et quand je revois ça, ça me serre le cœur. Je me dis que c'est criminel d'avoir fait ça. À mon avis, ça a tué beaucoup de personnes âgées.
Une blessure personnelle partagée par l'humoriste, qui a aussi posté des vidéos plus légères sur les réseaux sociaux avec son complice Franck Dubosc.
Alors, monsieur Macaron et compagnie du gouvernement, vous allez à la pharmacie, vous me distribuez de l'aspirine à tout le monde et on n'en parle plus.
Je crois qu'on est utile parce qu'on fait rire les gens et qu'on leur amène beaucoup de bien-être. Mais là, c'était encore plus. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'entendre parler d'autre chose ou d'entendre parler de ça, mais que ce soit un rire un peu libérateur. On n'est pas aussi essentiel qu'une infirmière ou que le milieu hospitalier, mais en tout cas, on a été utile dans ce sens-là. On les a fait rire, on les a fait penser à autre chose.
Un an après le premier confinement, les artistes et la culture, toujours à l'arène, n'attendent qu'une chose, retrouver la scène.
Bonjour, c'est un message que j'adresse personnellement à Roselyne Bachelot. Roselyne, ça suffit. On nous a suffisamment cassé les noisettes. Maintenant, c'est bon, on a compris que le coronavirus était dangereux. Mais ça suffit, nous voulons revivre. Merci.
Jean Viard, question téléspectateur. Pourquoi nos gouvernants ne comprennent-ils pas que la culture est essentielle pour notre morale? Et on a l'impression que, pour le moral, surtout des artistes qui souffrent beaucoup d'être renvoyés à cette étiquette de non-essentiel. Le monde peut très bien tourner sans vous, et on le prouve, ça fait un an que vous n'êtes pas là, et on est toujours là, nous.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention des musiciens. Parce que je pense, si vous voulez, que bien sûr que ça leur manque. Vous savez, moi, je suis habitué à faire des conférences en public 2 fois par mois, 3 fois par mois. Je veux dire, bien sûr que ça manque, et je comprends très bien. Mais ce musicien a dit aussi, effectivement, qu'il pensait que sa créativité avait été renforcée. Donc, soyons quand même là-dessus, je veux dire, beaucoup plus. Ils ne sont pas plus martyrisés que les restaurateurs dont le bonheur est de servir à manger, que les barmanes dont le bonheur, c'est de blaguer, etc., si vous voulez, à qui le travail manque autant que l'argent. Je veux dire, il y a des tas de gens qui sont dans cette situation et j'accepte tout à fait leur souffrance. J'ai pas du tout aimé la soirée des Césars hier soir parce que je trouvais qu'il y a un moment, il faut faire attention. Je veux dire, c'est pas pire que dans d'autres situations. Ça, c'est la première chose. Mais tout le monde est malheureux, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste dire 2 choses. Moi, vous savez, je multiplie toujours par 10 le nombre de morts ou par 20 pour avoir le nombre de vies sauvées. Parce qu'on oublie qu'on sauve des vies tous les jours. Et donc, même quand, vous voyez, quand le monsieur l'a dit toujours, on est en train... Oui, d'accord, mais on fait ça pour sauver des vies. Donc, après, est-ce qu'on fait bien ou pas? Je ne suis pas un stratège, mais je veux dire, c'est quand même ça le vrai. La deuxième chose que je voudrais dire, il y a 5 milliards d'hommes qui se sont confinés en même temps. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une telle rupture culturelle, symbolique. Je ne sais pas le monde d'après comment il va être. Est-ce qu'on va refaire? Vous voyez, en ce moment, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire parce que jamais on s'était battu tous ensemble pour la même cause. On s'était toujours battu les uns contre les autres. C'est la première fois. Qu'est-ce que ça va jouer dans la culture, dans la civilisation? Je crois qu'il faut quand même se dire qu'on est, il y a d'un côté il y a la vie intime, ce qu'on raconte là, ce qu'on a vécu nous individuellement. Et puis après, il y a l'événement historique et il est absolument gigantesque. Alors comment les deux vont s'articuler? Je n'en sais rien. Mais si vous voulez, la question, c'est comment on va sortir de cette crise en essayant de rapprocher ces deux dimensions. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Sinon, on va se taper dessus.
Justement, Fanny Guinochet, pour tous ces gens-là qui sont dans une impasse professionnelle, est-ce que ce n'est pas le moment de se réinventer? C'est d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même qui disait, le 13 avril, on a retrouvé la phrase, « Sachons dans ces moments nous réinventer, moi le premier », disait-il. Est-ce que c'est l'occasion de faire le ménage, d'entamer une nouvelle carrière, d'embrasser une nouvelle carrière, de faire des choses qu'on avait toujours rêvé de faire?
Un certain nombre de gens l'ont fait un peu contraint. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois, qui ont vu leur secteur, qui ont une réflexion sur le secteur. Par exemple, vous êtes dans le secteur aérien, on vous disait que ça allait exploser, puis là, tout d'un coup, on vous dit qu'au mieux, si ça revient à la normale, ça sera en 2023-2024. Donc, vous posez des questions. Vous êtes dans ce secteur-là, vous vous dites bah, peut-être qu'une réorientation professionnelle est utile. Vous avez aussi un certain nombre, je suis vraiment d'accord avec Jean Viard sur la façon dont, quels seront les secteurs demain qui vont émerger, où est-ce qu'il faut aller. Et puis, collectivement, on a beaucoup parlé des personnes âgées, des jeunes, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont garder de ces périodes où ils vont à l'école, où ils ont été confinés, où ils vont à l'école avec le masque? Et là, c'est intéressant parce qu'à l'heure où on parle notamment d'un reconfinement éventuel, on voit bien que la question des écoles, elle a vraiment changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles qu'on ne pourra pas rattraper. L'éducation des enfants, bien si on ferme les écoles trop longtemps, c'est un choix que fait la France, là, c'est un choix politique que fait la France notamment, mais on n'arrivera pas à rattraper cette éducation. Ça aussi, ça va laisser des traces. Les enfants de 10 ans aujourd'hui qui vivent cette période-là, pendant un an de contraintes, de vie avec le virus, comment ils vont appréhender l'avenir? C'est effectivement ça qu'aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas beaucoup de réponses à apporter, mais de toute façon, ça laissera des traces. Et dans la vie active, ça laissera des traces. Il y a des enfants ou des jeunes qui se disent aujourd'hui ah ben, je ne vais pas faire ce métier-là, ou je veux faire quelque chose qui ait plus de sens, donc je vais effectivement me réinventer.
Dominique, justement, sur cette envie, cette volonté, ce slogan qui était « il faut se réinventer là, du monde d'après », est-ce que c'était de la blague ou est-ce que non, on sortira du Covid dans un monde différent, un monde avec moins d'avions, moins des aéroports plus petits et des choses qui font qu'il y aura un monde d'après qui sera différent?
Écoutez, je note qu'il y a eu énormément de débats, de tribunes, de textes sur le monde d'après en mars-avril 2020. Mais depuis, à l'automne et depuis le début de l'année 2021, tout le monde a vraiment plutôt envie de revenir à la vie d'avant. Et donc, je me méfie un petit peu des gros changements ou des révolutions qui arriveraient. Je pense que la situation, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors, sur le plan économique, c'est que l'État a pris l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, c'est la très grande majorité de la paume, des pertes, du coût de cette crise. Et ça veut dire que pour le reste de l'économie, en termes financiers, de revenus, en réalité, c'est moins... Alors, je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça, mais ça a été moins coûteux qu'on pouvait le craindre. Vous vous souvenez, on anticipait 800 000 destructions d'emplois. Au minimum, on a parlé de 800 000 à 900 000. Finalement, c'est un peu plus de 300 000. On attendait énormément de faillites. On n'a pas eu les charrettes de faillite à l'automne ou depuis cet hiver. Peut-être qu'elles viendront après, mais quand l'État prend la majeure partie du coût d'une crise, il le fait. Les revenus des Français, naturellement c'est une moyenne, mais les revenus des Français ont progressé en 2020, ce qui est quand même incroyable. Alors naturellement, il y a des personnes qui eux ont vu leurs revenus baisser, je pense en priorité aux salariés, aux noirs, tous ceux qui vivaient grâce aux pourboires, etc. Ça a été mentionné tout à l'heure. Mais attention, la situation est très différente des crises économiques précédentes et donc je ne crois pas qu'il y aura une vraie révolution, un changement. Sauf sur la recherche de sens, mais ça c'est quelque chose d'un trend beaucoup plus long.
Sophie Orange, Le monde d'après ?
Le monde d'après, j'ai envie de dire qu'il existe déjà dans les EHPAD qui ont été quand même traumatisés par ce qui s'est passé l'année dernière.
Ah oui, on a vu
c'était vraiment des hécatombes, des dizaines de morts dans des établissements, aussi des personnels soignants qui a succombé. Voilà. Et aujourd'hui, un an après, à partir de ce matin, les protocoles sont allégés. Pourquoi ? La vaccination est passée par là. En janvier, il y avait encore à peu près 100 morts par semaine dans les EHPAD.
Comme la vaccination est à plus de 80%, donc voilà. Il y a une chute des contaminations.
Des contaminations et des décès. 100 morts par semaine au mois de janvier. En ce moment, on est plutôt à 20 morts par semaine. C'est divisé par 5 et ça va sans doute baisser puisque quand on sera à 90% de la vaccination. Donc effectivement, 80% des résidents sont vaccinés. À partir d'aujourd'hui, les personnes peuvent ressortir des EHPAD, se promener, aller voir leur famille sans être en quarantaine au retour. Et vous imaginez, alors qu'il y a un an, c'était des endroits où on mourait tous les jours dans des conditions absolument atroces. Voilà. Donc là, il y a vraiment un appel d'air, un monde d'après qui s'ouvre dans les EHPAD qui ont vraiment souffert. Et ça, je pense que ça donne de l'espoir quand même pour montrer que la vaccination, quand on sera vraiment bien vacciné, peut nous permettre d'avoir une vie un peu différente.
Voilà, il y a du positif. Il y a du positif aussi pour certaines entreprises. C'est le sujet qu'on va voir. Alors évidemment, elle ne le crie pas sur les toits, mais certaines entreprises ont bénéficié de l'épidémie. En fait, elles ont bénéficié surtout du changement de nos habitudes. Vous voyez ce sujet de Mathieu Lignot et Pierre Dehorn.
Dans cette usine du Doubs, on ne subit pas la crise du Covid. Ici, on fabrique des ustensiles de cuisine, poêles, marmites et casseroles haut de gamme. Depuis un an et le premier confinement, les ventes battent tous les records.
On est dans un des ateliers de stockage. Et en fait, normalement, les racks qui sont ici sont pleins à 80-90%. Sauf qu'en ce moment, c'est bien vide. C'est bien vite parce qu'on a puisé dans nos stocks pour pouvoir répondre à la demande qui était particulièrement soutenue depuis plusieurs mois maintenant.
L'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 25%. Heures supplémentaires pour les employés, il faut tenir la cadence et même l'augmenter.
Là, on a l'appréhension de la matière première. Les disques en inox vont être graissés avant d'être placés sur une première presse d'emboutissage qui, elle, va donner vie à la casserole.
Emmanuel Brugger a commencé dans l'atelier il y a 30 ans et il n'avait jamais vu un tel carnet de commandes. Ici, les 90 salariés se connaissent tous.
Merci. Merci.
Et depuis peu, des nouvelles ouvrières sont arrivées en renfort.
On a recruté d'abord Johanna et puis ensuite Sonia. Et en fait, on s'est rendu compte, après les recrutements, il s'agissait de la mère et de la fille.
18 embauches sont prévues.
Je suis très fière de travailler ici et de voir que ça marche bien. Et puis c'est tout au bien pour nous qui sommes intérimaires pour continuer dans le travail, quoi. C'est actuellement le travail court pas les rues.
Donc on a eu la proposition sur le nouvel atelier.
Comment expliquer ce succès ? Pour les dirigeants, les clients partout dans le monde ont profité des confinements pour se mettre à cuisiner des produits locaux. Retour aussi à des ustensiles made in France. Presque une exception dans une industrie française en crise.
Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le plus beau des résultats, c'est le développement de l'entreprise et le développement de l'emploi et puis la satisfaction du client, des clients qui sont de plus en plus nombreux. Et c'est juste hyper enthousiasmant, c'est merveilleux, quoi.
À 600 km de là, une autre PME a tiré son épingle du jeu. Le télétravail massif a chamboulé cette entreprise de services informatiques.
On a explosé le nombre d'ordinateurs portables qu'on vend. Jusqu'à présent, on vendait plutôt des ordinateurs fixes, en tout cas pour les administratifs. Et avec le Covid, en fait, tout le monde devient mobile.
L'entreprise bénéficie d'aides de l'État pour 4 contrats d'apprentissage. Un moyen de recruter de futurs salariés et une chance pour les étudiants.
On a un secteur en tension quand même, c'est des métiers qui sont difficiles à trouver. Donc c'est génial quand on a des gens comme Bastien qui sont là, stagiaires, ensuite apprentis, on les suit, on voit leur évolution.
Ma copine qui est elle est en études littéraires. Voilà, il faut qu'elle effectue un stage dans une librairie ou dans le secteur, quoi. Et là c'est très compliqué, elle est en recherche de stage depuis un moment et malheureusement je pense que ça va être encore plus compliqué, quoi.
Afficher 17% de croissance pendant que l'économie du pays est grippée. Pas toujours facile à vivre pour un chef d'entreprise.
C'était pas évident de se dire nous on fonctionne, nous ça marche.
Et il y en a, on a eu des clients typiquement un hôtel par exemple, où il dit bah ouais, mais moi je suis fermé, vous continuez à me facturer pour quelque chose, mon lien internet par exemple, mais moi je suis fermé. Et ça, c'est pas évident.
Ok, si on fait tout gratuit et que derrière on licencie 30 personnes, je pense pas que ce soit non plus un acte responsable. Donc on a essayé de trouver un juste équilibre pour nous dans notre situation.
L'entreprise veut continuer à se développer. Elle cherche à recruter 3 nouveaux salariés.
Fanny Guinochet, on voit comment les entreprises se sont mises au télétravail. Ça veut dire que si la semaine prochaine, puisqu'on en parle, hein, c'est dans l'air, on décrète un confinement à l'Île-de-France, les entreprises peuvent dégainer un 100% télétravail, tout le monde qui reste chez soi. C'est techniquement dans les possibles maintenant.
On a fait beaucoup de progrès. Évidemment, par rapport à l'année dernière, les entreprises, on l'a vu, ont équipé leurs salariés. D'ailleurs, les ventes d'ordinateurs ont explosé. Certains salariés ont aménagé un espace. Il y a toute une organisation qui s'est mise en place. On apprend à travailler de loin. On sait faire avec des équipes qui sont dispersées. Il y a un an, ce n'était absolument pas le cas dans la plupart des secteurs. C'était extrêmement minoritaire, les secteurs qui savaient faire. La grande différence, quand même, j'y reviens, mais le télétravail, il faudra voir si les écoles ou pas sont fermées, parce que télétravailler avec des enfants, c'est pas pareil que télétravailler comme on le fait actuellement un certain nombre de salariés, parce qu'il y a déjà depuis l'année dernière, il y a énormément d'accords de télétravail qui ont été mis en place, négociés avec les syndicats, et ce qu'il apparaît, Dominique Seux le disait, c'est que personne ne veut, ni patron, ni salarié, du tout télétravail, du 100%, parce que ça manque, parce que on est seul, parce que on perd en créativité. En revanche, ce qu'il apparaît, c'est que dans la plupart de ces accords, c'est 2 à 3 jours par semaine. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est en train de... Alors, ça dépend des régions et des départements en fonction de la situation sanitaire, mais dans un certain nombre de postes où c'est possible, attention, hein, parce que tous les postes ne sont pas télétravaillables, effectivement, on est déjà dans une organisation comme ça. Donc, si on bascule... Mais on reviendra à cette césure de ceux qui peuvent télétravailler, quelque part aussi se protéger du virus, et puis ceux qui restent sur le front, qui sont sur site, qui sont face au public.
Et des entreprises qui indemnisent aussi leurs salariés qui sont à la maison en télétravail, 20, 30, 40 euros par mois pour payer la facture de la box, pour payer le chauffage, pour compenser au fait qu'il n'y ait plus de cantine.
Ah, les mètres carrés aussi qu'il faut
et
mobiliser.
Les mètres carrés, exactement. Donc voilà, certaines entreprises commencent à mettre ça en place. Voilà, ça va prendre du temps parce qu'évidemment, c'est difficile à négocier. Mais à la fois, s'il y a moins de loyers, parce qu'il y aura moins de bureaux, moins de mètres carrés de bureaux, c'est aussi une façon d'accompagner les salariés qui sont à la maison.
Alors, sur cette vie qui passe en ligne, Dominique Seux, question téléspectateur. Après avoir goûté au click and collect, au e-commerce, etc., pourquoi les consommateurs retourneraient-ils vers des habitudes d'achat plus classiques? Est-ce que c'est un chemin sans retour là, que nous avons pris avec l'Internet? Mais même pour, je ne sais pas, est-ce que nous ne retournerons plus au cinéma? On s'est rendu compte que finalement, c'était très bien d'avoir ces plateformes qui vous amènent le cinéma à la maison.
Pas pareil.
Alors, pour le cinéma, en fait, on peut avoir les deux à la fois. Vous pouvez avoir les Netflix et en même temps retourner au cinéma. C'est ce qu'on a vu depuis des années. La multiplication des écrans ne s'est pas accompagnée d'une baisse de la fréquentation des cinémas. Donc, il y a, les deux peuvent fonctionner. Ça, c'est le côté culturel. Sur le côté les magasins, en fait, je crois que ça va accélérer une tendance sur l'éloignement des consommateurs des très grandes surfaces, des hypermarchés qui traversent une vraie crise. Parce que quand vous allez dans un hypermarché, c'est rarement pour le plaisir, vous y allez plutôt pour faire les courses le week-end. Ça ne signe pas forcément la mort des petits commerces de proximité, parce que cette crise a montré aussi un attachement au commerce de proximité, au commerce que l'on connaît. Chacun sait bien maintenant que la vie des centres-villes est vraiment liée à ça. Juste un mot, je crois qu'on parle souvent des premières et deuxièmes lignes, et c'est pour rebondir sur ce qui a été dit avant. Je crois que collectivement, il est bon aussi de rendre hommage aux directeurs informatiques, directrices informatiques des entreprises et aux DRH. Sans les directeurs et directrices des informatiques de toutes les entreprises de France, je pense que ça aurait été là cata. Et on leur rend rarement hommage, donc je le fais.
Jean Viard, nos centres-villes sont un peu sous cloche depuis un an. Comment vont-ils rouvrir? Est-ce que certaines boutiques vont devoir fermer parce qu'en fait, on est passé au click and collect? Est-ce que certains restaurants ne se remettront pas, n'arriveront pas à rouvrir? Est-ce qu'avec cette mode du passé en ligne ne menace pas nos rues commerçantes?
Et moi, je crois qu'il y a deux choses dans cette pandémie, il y a la valorisation du local, c'est-à-dire les commerces qui sont autour de chez nous, les tiers-lieux, tout ce qu'on fait autour de chez nous, et puis il y a la livraison. Quelque part, le travail à domicile, c'est une forme de livraison. Bon. On livre le travail à la maison. Amazon, 20 millions de Français ont acheté sur Amazon l'année dernière. 20 millions. Donc, si vous voulez, on va vers ce couple livraison local. Local, c'est son quartier, la ville, un quart d'heure. Le petit ville, le bourg. Bon. Et on va vers ce nouveau couple. C'est ça qui est en train de se passer. Mais c'était déjà là avant, parce que les très grands magasins, et Dominique se l'a très bien dit, ils étaient déjà en train de se transformer en lieu de stockage pour les circuits Amazon, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a une disparition de ce genre de lieu, il y a donc ce genre de transformation, et ça peut effectivement aider, dans certains cas, certaines villes, alors pas toutes, ça va dépendre, vous savez, on ne peut pas faire des moyennes générales. Il y a des villes moyennes qui sont à moins d'une heure des métropoles, et Dominique se dit, il n'y a pas beaucoup de migration. Oui, il a raison, mais il y en a peut-être suffisamment pour que là où ils arrivent, ça modifie des équilibres. Parce que si vous voulez, dans une petite ville, vous amenez 300 personnes, c'est beaucoup. Statistiquement, ce n'est pas important. Moi, je vois en Bretagne, la petite ville où j'ai quelques intérêts, il y a peut-être 30 personnes, 30 familles qui sont arrivées, 30 familles dans une toute petite ville, ça compte. Voilà. C'est pour ça que les deux éléments ne sont pas les mêmes. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Il y a une chose qui me frappe aussi dans les gens qui y gagnent, c'est comme le nucléaire est redevenu populaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que les gens ont compris la question du réchauffement climatique. Et d'un coup, le nucléaire qui était à 62%, je crois, d'opinion favorable, le chiffre, je ne le certifie pas tout à fait, mais presque, alors qu'il était beaucoup plus bas. Et au fond, la mentalité des gens sur comment on lutte contre le réchauffement climatique a effectivement joué. Donc c'est pour dire, il y a des secteurs qui ont gagné, bien sûr, mais dont celui-là, ce qui peut sembler plus fort. Puis après, il y a les GAFAM, tout ça, évidemment, la pharmacie et tout. Mais pensez aussi au nucléaire, parce que pour moi, c'est un indicateur de changement en termes de mentalité.
Puisque le nucléaire n'émet pas de CO2, et donc de ce point de vue, on considère qu'il est bénéfique, enfin en tous les cas, il participe à la réduction des gaz à effet de serre.
Le vélo a gagné aussi.
Le vélo
a gagné, les ventes de vélos ont explosé.
Tout de suite, on revient à vos questions. Il y a un an, Emmanuel Macron lançait contre le Covid « Nous sommes en guerre ». Sophie Oranche, un an plus tard, le sommes-nous toujours? Où est-ce que...
On n'a pas gagné la bataille, en tout cas. N'est pas gagné.
Est-ce qu'on est toujours en guerre vraiment contre le Covid, ou bien on se dit y a quand même d'autres soucis maintenant qui taraudent le gouvernement, l'économie, la santé mentale?
Le gouvernement aimerait bien parler d'autre chose, mais c'est impossible depuis un an. Je pense que le mot « guerre », effectivement, était à l'époque très choquant. Aujourd'hui, voilà, ce sont plus des mots autour de la bataille, du combat. Non, ce n'est pas gagné, parce que ce virus nous joue des tours, parce que ce virus mute. Et objectivement, on signe ce variant anglais, parce que pour le moment, en France, les variants sud-africains et brésiliens restent stables à 5% des nouveaux cas. Mais sans ce variant anglais, aujourd'hui, je pense qu'on aurait rouvert les cinémas, on aurait rouvert les musées, parce que c'est le hasard, c'est la science, c'est la compétition entre les virus, le variant anglais a gagné. On espère que ce sera la dernière mutation.
Jean Viard, j'ai adoré le confinement. Suis-je le seul? Question de Christophe dans le Loiret.
Non, il y a des gens qui ont été heureux. Il y a des couples qui se sont très bien entendus. Je pense que la famille s'est souvent ressoudée. On ne parle que des femmes battues, et c'est bien normal, parce que c'est évidemment un problème majeur. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas été battues, et des hommes non plus. Donc je veux dire, je crois qu'il faut faire très attention. On a toujours tendance, dans notre société hyper médiatique, à éclairer ce qui dysfonctionne. Et c'est normal. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fonctionné. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Regardez, même les gilets jaunes, comme souvent ils ont des jardins, l'année dernière pendant le confinement, dès qu'on a rouvert les endroits où on pouvait acheter des plantes, ils se sont lancés dans les tomates et dans les potagers. Donc si vous voulez, pour ça que j'essaye de pondérer, parce que pour l'instant on a une idée de ce qui se passe qui est à mon avis très partielle, très partielle en plus. Et donc faisons attention, tout le monde n'a pas vécu ça pareil. Après il y a un énorme isolement, il y a beaucoup de familles. Moi je pense qu'on a souvent retrouvé nos enfants. Au début c'est vrai que c'est envahissant, mais en même temps on leur a consacré du temps comme jamais. Donc si vous voulez, c'est toujours pareil, il faut voir les deux dimensions et il faut faire attention, faire un vrai bilan, il faudra un peu de temps.
Fanny Guinochet,
effectivement, sur le rapport au temps, c'est très très important, parce que le rapport que l'on a passé en famille fait aussi que quand vous avez, là en ce moment, vous avez beaucoup d'entretiens, d'évaluations dans les entreprises, et ce qui ressort, je discutais avec des DRH, c'est que vous avez quand même un certain nombre de salariés qui expliquent qu'ils ont envie d'avoir du temps. Mais ils le disent, c'était déjà le cas avant, mais là, aujourd'hui, ils le disent de façon beaucoup plus affirmée, en disant, ah ben non, je tiens à garder, ou je passe en temps partiel, parce que je veux absolument pouvoir accompagner mes enfants ou mieux aider mes parents. C'est vrai que les curseurs changent. Ils étaient déjà là avant, hein, attention, on voyait cette envie d'une meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Mais là, j'étais surprise et les DRH à qui Dominique se rendait hommage disent tous qu'ils sont aussi un peu déconcertés parce que dans les demandes ou dans les perspectives d'évolution de carrière, il y a aussi cette tendance-là qui vient, y compris du côté des messieurs. Attention, hein, ça n'est pas que des demandes féminines.
Pourquoi, Sophie Orange, pourquoi ne pas rouvrir bars et restaurants avec protocole sanitaire strict et contrôle inopiné ? Alors, les Italiens y ont renoncé, mais en Espagne, ça se fait.
Oui, on sait très bien que les bars et les restaurants rouvriront en dernier, puisque c'est l'endroit où on ne porte pas le masque. Pour respecter la distance de sécurité, si j'ose dire, c'est 2 mètres. C'est la distance qu'on a entre nous pour être sans masque. Et évidemment, quand on est 4 autour d'une table, si vous imaginez une table de 4, voilà, c'est pas possible. On est trop près quand on est dans un bar ou dans un restaurant. Quand on est à 70 cm, sans masque, c'est un lieu de contamination, c'est sûr. C'est l'un des derniers lieux de contamination. On se contamine à la maison, lors des repas, en famille, le dimanche. Et aussi, on se contaminait dans les bars et les restaurants quand ils étaient ouverts.
Dominique, moi, tout me manque. C'est triste d'être en permanence derrière des écrans chez soi. On va mourir de dépression. C'est curieux parce qu'avant, être chez soi, on disait on est chez soi tranquille. Ouais. Et le patron disait mais vous ne travaillez pas. Et on a l'impression que maintenant, les salariés, que ça s'est presque inversé. Ce sont les salariés qui disent non, mais on veut retourner en entreprise. Fanny Guinochet le disait à l'instant.
Non, mais ça a été cette année a été la plus dure pour les jeunes professionnels ou étudiants, mais jeunes professionnels vivant seuls chez eux, en télétravail dans la journée et sans possibilité de sortir le soir. Je pense que ça a été vraiment très dur pour eux. Mais attention, je prends le pari que nous allons être surpris par l'effet de la vaccination. C'est-à-dire, nous avons évidemment été surpris en mars 2020 par l'effet des confinements. Je crois que ce qui est en train de se passer, à l'heure où nous parlons, 350 millions de doses ont été injectées dans le monde. Il y en avait 100 millions le 2 février. Un mois après, 230 millions, un peu plus. Donc ça va, oui, je ne parle pas de la France, je parle du monde. Et donc il y a un changement, ça va basculer très très vite. L'Europe va rattraper son retard à un moment ou à un autre. Elle est un peu à la traîne, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que nous allons être surpris si... sauf si des variants, évidemment, se révèlent résistants au vaccin, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, nous allons être surpris par ce retour à la normale.
Fanny Guinochet, les grandes et moyennes surfaces sont-elles vouées à disparaître ou à se transformer en supérettes ? C'est une question importante, parce qu'en France, on avait les leaders, enfin Carrefour, on a des champions mondiaux, qui étaient des champions mondiaux de la grande distribution.
Disparaître totalement, non, se réinventer, oui. Réaménager aussi au sein des rayons les demandes, on le voit. Hein. Tout à l'heure, on faisait la liste de ce qu'il y avait des gagnants de cette crise. Effectivement, vous avez les machines à coudre. On croyait que c'était terminé. Ben là, est-ce que c'était pour faire des masques ? Mais plus 70% d'achat quand même. Hein. Vous avez un certain nombre de biens qui ont changé. Et on ne va pas du tout concevoir de la même façon... le rapport quand on va dans ces supermarchés. Effectivement, je pense que les hyper qui étaient déjà, on l'a souvent dit, mais cette crise, elle a accéléré des tendances. Les hypermarchés qui étaient où il fallait prendre sa voiture, qui étaient immenses, dans lesquels on se perdait, tout ça, les gens n'en veulent plus.
Dominique, les plateformes de streaming vont-elles définitivement remplacer les cinémas ? C'est vrai qu'on a vu les majors de Hollywood maintenant diffuser directement leurs films en premier sur les plateformes en disant finalement c'est plus simple et on touche plus de monde et puis les gens sont ravis avec leur télécommande chez eux d'avoir le cinéma qui vient dans leur salon quoi.
Oui, mais il manque quand même. La télévision n'a pas supprimé la radio, les plateformes de streaming ne remplaceront pas complètement le cinéma parce qu'il y a quelque chose de supplémentaire dans la salle de cinéma, c'est le fait d'être ensemble pour apprécier un spectacle et pour regarder un film. Et donc, je pense que les deux peuvent cohabiter.
Sophie Orange, question compliquée. Mars 2020, puis mars 2021, doit-on se préparer à vivre encore quelques années avec ce satané Covid ? Question de Olivier dans l'Aisne.
Alors, ce sont les mutations des virus qui vont nous aider à répondre à cette question. Pour la grippe, par exemple, pour le vaccin, chaque année, on doit refaire un vaccin avec des nouvelles souches. pour être efficace, en espérant que ce sont ces souches-là qui circuleront ensuite dans l'hémisphère nord. Ce sera sans doute la même chose pour le coronavirus, c'est-à-dire que là, on a le variant anglais qui domine, peut-être que dans quelques mois, ce sera un autre variant. Donc, en fait, la balle est dans le camp de l'industrie pharmaceutique qui va devoir s'adapter mois après mois à l'apparition de nouveaux variants pour les intégrer dans ces nouveaux vaccins.
On pourrait ne pas éradiquer le Covid, mais le Covid pourrait devenir une maladie chronique.
Voilà, on se vaccine,
la grippe saisonnière.
Voilà, tous les ans, tous les 6 mois, voilà, exactement. C'est une des pistes. Mais encore faudrait-il que les laboratoires tiennent leurs promesses et livrent les doses qu'ils ont prévues de nous livrer, ce qui n'est pas le cas en France pour le moment.
Va-t-on assister à un nouvel exode des Franciliens, Jean Viard? Ça avait été très critiqué, ça, lors du premier confinement, quand on avait vu tous ces Parisiens fuir disséminer le virus dans les campagnes.
En fait, ils ne l'ont pas disséminé et en plus, il y a eu beaucoup moins de malades dans les hôpitaux parisiens. Donc, je pense que finalement, c'était bénéfique. Ça a été un peu compliqué sur des îles, parce que c'est vrai que sur des îles, comme l'île de Ré et tout ça, comme d'abord, il n'y a pas d'hôpitaux. Et si vous mettez d'un coup plein de monde, ce n'est pas du tout équipé. Donc, les îles ont posé des problèmes à plusieurs endroits. Il faut faire attention. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se déplacent, mais disons la vérité, Paris se dépeuplait déjà. Paris a perdu 59 000 habitants ces 10 dernières années. Donc le mouvement qu'on a, c'est effectivement la ville, la métropole, c'est le lieu de la création de richesses, c'est le lieu du boulot, mais on n'est pas obligé d'y habiter. Et au fond, on est en train de séparer l'art de vivre et l'art de produire. C'est ça qu'il faut voir, y compris parce que les prix des loyers ont augmenté, etc. Mais c'est normal parce qu'il y a de plus en plus d'activités dans la métropole. Au fond, demain, moi je verrais bien qu'on ait 2 jours à Paris et 3 jours en province.
Le rêve.
Oui, non, Sophie Orange. Est-il réaliste de préparer son départ pour les vacances de cet été? Oui, non.
On attend un peu, en tout cas en France. On attend.
Bon, d'abord, eh ben on attend. Merci beaucoup.
On regarde, on se renseigne, on regarde, on rêve.
Merci, voilà, on rêve. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'Hebdo. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. À lundi.